Bonjour tout le monde. On enregistre un dimanche après-midi, alors il fait beau, on est bien, c'est relax. Et aujourd'hui, on a une invitée que moi j'ai super hâte d'interviewer, ça va être vraiment le fun. En fait, ça me rend un peu nerveuse parce qu'on interviewe une journaliste, fait qu'il y a comme plus de pression. Je sais pas si toi tu le ressens, mais moi je ressens la pression.
Je me sentais de même avec Charles Delisle, mais c'est ça, c'est sûr que quand on parle avec une journaliste, je me sens un peu vulnérable.
Avec ça, on va présenter Omaira. Bienvenue. Moi, je vais pas faire ton intro. T'es qui? C'est quoi ton identité, tes identités, ton parcours? Vraiment, c'est qui Omaira?
Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous deux. Je suis Omaira Issa. Je suis une femme noire des prairies canadiennes. Ça fait 22 ans que je vis en Saskatchewan. J'ai passé beaucoup d'années en Alberta également. Mon parcours est assez particulier. Je vais juste dire un petit peu que j'ai immigré du Niger pour arriver à Saskatoon. Avant le Niger, j'étais née au Maroc. Et donc, mon parcours d'immigration, je peux dire, est assez multi-layered. Et en même temps, je suis journaliste à CBC. Donc, je suis vraiment une storyteller. Au plus profond de moi, je suis une personne qui raconte des histoires, qui rencontre des gens pour raconter leurs histoires. Donc, c'est un peu ça, Omaira Issa.
C'est tellement génial. J'adore le mot multi-layered parce que ça montre comme beaucoup des intersections que tu as dans ton identité. Puis le fait que tu t'identifies tellement avec les prairies aussi. Moi, je suis franco-manitobain, franco-albertain, immigrant aussi. Mes parents ne parlent pas le français, mais pour moi, le fait d'être franco-manitobain, franco-albertain ou s'identifier avec les prairies, c'est tellement important. Mais j'aimerais entendre pourquoi c'est important pour toi de s'identifier avec les prairies. Est-ce que c'est pour changer la narrative? C'est-tu pour changer l'image des prairies? C'est quoi?
C'est tellement une superbe question. C'est pour plusieurs raisons. La première raison est personnelle, parce que j'ai réalisé après plusieurs années en vivant dans les prairies canadiennes. Bon, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé à travers notre pays, mais j'ai uniquement vécu dans les prairies. Et j'ai réalisé il y a quelques années que les prairies font partie de moi d'une manière que je n'avais vraiment pas, en fait, réalisé. Par exemple, les espaces, le ciel ouvert, les couchers de soleil font très, très partie de moi. La rivière Saskatchewan est une rivière qui est très, très importante pour moi. Donc, j'ai un rapport très personnel et quasiment charnier avec l'espace, avec les espaces des prairies canadiennes. Et en même temps, ça fait aussi partie de mon travail. J'ai vraiment passé plusieurs années à faire des reportages sur les communautés francophones en Saskatchewan, quand j'étais journaliste à Radio-Canada, ensuite sur les communautés noires des prairies comme journaliste à CBC. Et donc, ça fait vraiment partie de mon travail également. Et je pense que la troisième raison, c'est une raison un peu plus politique, dans le sens où quand on dit qu'on est noir dans les prairies, c'est un peu jarring pour les gens. Les gens n'ont pas forcément ils n'associent pas historiquement les prairies avec des identités noires, avec des intersectionnalités noires. Et alors que ça fait 200 ans qu'il y a une présence riche noire dans les prairies canadiennes, une présence qui est aussi francophone, comme on le sait. Et donc, pour moi, c'est important de changer le narratif parce que les narratifs, ça fait partie de qui on est comme des sociétés et ça nous définit aussi. Donc, effectivement, c'est vraiment une posture personnelle, philosophique et politique.
Ça se voit déjà que tu es tellement un storyteller. On entend ça dans la passion que tu apportes à tes identités, puis comment que tu expliques les différents aspects ou les différentes dimensions, pourquoi tu t'identifies autant avec les prairies. J'aimerais revenir au fait que tu as dit que tu travailles à CBC. Puis ça m'est passé comme au-dessus de la tête pour un moment parce que j'étais comme, ouais, CBC. Mais en tant que francophone, on n'entend pas souvent des histoires francophones qui sont partagées par les médias anglophones. Donc, pour toi, pourquoi est-ce que tu as fait ce saut-là de Radio-Canada à CBC? C'est quoi l'importance de faire du storytelling francophone, mais en anglais?
Wow, je pense que c'est la première fois qu'on m'a posé cette question-là et c'est tellement une question riche. Merci beaucoup. Pourquoi c'est important? C'est sûr que nous, comme francophones en milieu minoritaire hors Québec, on a des vécus, des histoires, des complexités qui sont importantes. C'est pour ça que votre balado, je trouve, est phénoménal et extrêmement important dans l'espace médiatique et social à l'échelle du pays. Je crois vraiment que le travail que vous faites est essentiel. Et en ce sens-là, je crois beaucoup que c'est important comme francophone de pouvoir bâtir des relations et des ponts avec d'autres communautés parce que nos histoires sont importantes. Sont essentielles en fait à comprendre le Canada contemporain. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire ce travail-là de bâtir des ponts linguistiques surtout.
J'aimerais commencer en disant merci d'aider les communautés puis de représenter les communautés francophones et de bâtir ces ponts-là parce que en tant que journaliste, c'est ça aussi vous. Vous nous permettez de voir les deux côtés ou les multiples côtés d'un enjeu. Alors, merci. Mais j'aimerais aussi demander comment, où est-ce que c'est venu d'où cette passion-là pour le storytelling, puis comment est-ce que ça s'est devenu une carrière en journalisme?
J'ai vécu au Niger, j'ai grandi au Niger. Ma grand-mère, donc moi j'ai grandi dans les années 90. Ma grand-mère était, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et ma grand-mère est une personne extrêmement ouverte sur le monde. Donc elle écoutait tout le temps, tout le temps, tout le temps les nouvelles. Et ça devenait en fait quelque chose de super important dans notre maison, parce que quand c'était à 12h30, on écoutait la radio, alors personne ne pouvait parler dans la maison. C'est OK, là, on écoute les nouvelles, OK, on parle pas, on écoute les nouvelles. Puis c'était la chaîne RFI, Radio France Internationale, qu'on écoute beaucoup sur le continent africain, dans les communautés francophones, dans les pays francophones. Et à 20h, c'était le temps d'écouter la télé, parce que c'était les nouvelles locales. Alors là, on ne pouvait pas parler non plus, on écoutait les nouvelles. Et ça m'a vraiment donné cette impression que les nouvelles et le journalisme étaient très importants, même si à l'époque, j'étais très jeune, je ne comprenais pas forcément la profession de journaliste, mais je savais que c'était important de prêter attention sur le monde dans lequel on vit et sur l'environnement dans lequel on évolue. Et ça, c'était vraiment une leçon importante qu'elle m'a donnée. Et donc, quand je suis venue au Canada à l'âge de 16 ans en Saskatchewan, je me suis très rapidement impliquée dans la communauté francophone. À l'école, j'ai commencé un journal étudiant. Ensuite, quand je suis allée à l'Université de l'Alberta, j'ai cofondé un journal étudiant. J'étais au campus Saint-Jean.
Est-ce que je peux te poser si c'est le mouton noir?
Ah, oh, c'est drôle parce que c'est pas le mouton noir, c'était juste avant
Ah!
le mouton noir.
OK!
Mais c'était à peu près dans les mêmes années.
OK.
Ça s'appelait Le Miroir. Et
OK.
ça, c'est, ça, On l'a eu pour une période assez courte, mais une période très, très fructueuse. Mais oui, effectivement, c'était à peu près au même moment que le mouton noir a été lancé. love that. Et donc, après ça, après mes études universitaires, Radio-Canada m'a proposé de travailler avec eux comme journaliste. Et ça a été vraiment le début d'une carrière qui continue depuis près de 10 ans maintenant.
Une carrière très fructueuse, j'aimerais ajouter. C'est sûr qu'on voit ton nom paraître partout, non seulement dans des espaces francophones, mais également dans des espaces de la majorité. Puis c'est comme de voir cette représentativité, particulièrement pour moi en tant que jeune racisé dans les prairies, qui s'identifie ou qui se voit pas toujours dans la francophonie canadienne. Ça fait vraiment du bien pour mon cœur, puis comme. C'est comme un baume pour un enfant qui voulait tellement faire partie d'une communauté.
Ah,
Donc,
tu me donnes la chair de poule. Merci, tu me donnes la chair
j'aimerais aborder le sujet de ton projet Black on the Prairies.
de
Ça, c'est un projet que tu as passé beaucoup de temps à travailler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi Black on the Prairies? Puis, ouais, on va commencer avec cette question-là.
OK. Black on Prairies, Noir dans les prairies, c'est un projet qu'on a lancé, qu'on a débuté en 2020. Alors, on se rappelle tous de l'été 2020 avec le mouvement Black Lives Matter qui avait ébranlé, secoué le monde entier, le Canada. Et les prairies faisaient également partie de ça. Moi, quand j'étais à Saskatoon en été 2020, je couvrais le mouvement Black Lives Matter et j'avais vu quelque chose de complètement nouveau. J'avais observé 4 000 personnes dans les rues de Saskatoon. C'était la manifestation la plus importante de l'histoire de la ville. 4 000 personnes étaient dans les rues pour le mouvement Black Lives Matter. Et c'était la première fois que je voyais des jeunes personnes noires comme leader de mouvement social. Et ça faisait des années que je couvrais les manifestations, mais c'était à travers toute la Saskatchewan, mais c'était la première fois que je voyais ça. Et je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose de différent qui se passe cette fois-ci. On a vu également à Edmonton, il y avait énormément de gens dans les rues. À Winnipeg, il y avait 25 000 personnes dans les rues à un moment donné. Il y avait dans des petites communautés, Red Deer, Yorkton, Annisfield, je veux dire vraiment dans différentes petites communautés à travers les prairies, mais aussi dans les villes des prairies. Et j'entendais en même temps que les membres du public voulait comprendre ce qui se passe au-delà juste des headlines, au-delà juste des articles qu'on faisait. Et donc, pour moi, je me suis dit, OK, on a vraiment la possibilité d'éduquer le public, d'informer le public, mais aussi de complexifier la conversation. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Black on the Prairies, parce que jusqu'à ce que le projet a été lancé, personne ne parlait du fait que les communautés noires des prairies existent depuis 2 siècles. On a toujours plusieurs idées reçues ou malconceptions où on pense que les communautés noires des prairies sont nouvelles à cause de la nouvelle migration qu'on voit en ce moment, où on croit qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup contribué à la région, où il y a des gens qui pensent que ce sont des contributions très mineures et il n'y a pas forcément aussi cette compréhension que les communautés noires ont toujours eu des relations avec d'autres types de communautés, y compris les communautés francophones, les communautés autochtones, les communautés chinoises, les prairies, etc., etc., etc. Donc, on a réalisé, OK, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a lancé ce projet-là. Le projet est devenu un projet hyper ambitieux où on a fait 30 histoires sur différentes plateformes, donc les plateformes audio, télé et virtuelles, digitales. Et ensuite, quand on a fait ce travail journalistique-là, on a aussi lancé des partenariats avec les bibliothèques, les musées, parce qu'on voulait aller chercher le public canadien où il se trouve. Et pas forcément juste dire, hey, venez voir notre travail, mais on va aller vers vous pour vous montrer l'importance de ces histoires-là. Et ensuite, on a aussi lancé un guide pédagogique pour les élèves de la maternelle à la 12e année, en français et en anglais, qui est disponible à travers tout le Canada pour que l'histoire des populations noires dans les prairies fasse partie de la conversation à l'échelle du Canada.
C'est sûr que ça a été vraiment un travail rassembleur qui a rassemblé toute la communauté, tu sais, comme nos enseignants, nos bibliothèques, nos musées, nos gardiens de patrimoine. Donc, ça, c'est tellement important de non seulement comme partager le mot puis dire voici ce qui s'est passé, mais aussi les impliquer dans la discussion puis vraiment faciliter une réflexion profonde sur la nature de nos institutions puis la façon que les gens interagissent les unes des autres. Est-ce que tu as trouvé que dans nos institutions médiatiques, ça a été difficile d'aborder un sujet comme le racisme, vu que c'est tellement vu comme un sujet tabou? On veut, comme tu as dit tantôt, c'est pas un sujet qu'on aimerait aborder des fois.
Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de ce que j'ai réalisé à travers le projet, c'est que il y a, je dirais, un certain manque d'informations sur que j'ai trouvé sur l'importance et les contributions des communautés noires des prairies à l'histoire du Canada et au présent du Canada. Et ça limite un peu la compréhension que nous avons de notre propre pays quand on ne réalise pas les complexités de nos pays. C'est difficile de faire face à des questions aussi importantes que le racisme, particulièrement le racisme anti-noir qui existe quand même. Alors, je ne suis pas la seule à le dire. Évidemment, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Le gouvernement canadien également en parle. Il y a des fonds qui ont été distribués, y compris par le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau, pour combattre le racisme, notamment systémique, contre les personnes noires au Canada. Donc, ce n'est pas une chose controversée de dire que ça existe dans notre pays. Quoique, pour certaines personnes, ça peut sembler controversé de le dire, mais je m'appuie sur des faits. Ceci étant dit, en parlant des faits, c'est vraiment important pour nous, je pense, comme société et canadienne, de nous parler entre nous, de pouvoir avoir des conversations qui ne sont pas toujours faciles, surtout dans nos institutions, que ce soit dans les écoles, dans les universités, dans les musées, dans l'espace médiatique, notamment. C'est vraiment. Ou même dans l'espace politique, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir ces conversations-là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on a publié le projet Black on the Prairies, Noir dans les prairies, on a reçu des centaines et des centaines et des centaines de réactions à travers tout le pays, d'un océan à l'autre. On a entendu parler de Canadiens, de la part de Canadiens, qui nous ont remerciés en disant, on ne savait pas que notre pays avait une histoire si riche autour des contributions des communautés noires des prairies canadiennes. On a entendu parler de la part de gens issus des communautés noires, merci beaucoup parce qu'on se voit, on se sent représenté, on se sent entendu. On a aussi entendu des réactions de très, très jeunes élèves dans les écoles qui ont dit, vraiment, là maintenant, on apprend là-dessus, on en parle avec nos parents à la maison. C'est extraordinaire quand on peut vraiment ouvrir l'espace public à la conversation et au débat. Moi, je pense que c'est l'apport la plus importante du journalisme. Alors, c'est en grande, grande partie la raison pour laquelle on a fait Black on Prairies. Alors, merci beaucoup pour cette question, vraiment.
Ben oui, on voit vraiment le pouvoir du storytelling, puis comment ça touche le monde, comme, ouais.
Puis est-ce que c'est un stretch de dire que ce projet-là a été guérisseur pour toi et pour plusieurs dans la communauté? Parce que de la manière que tu en parles avec tellement, tellement d'émotions, puis avec, tu sais, après un travail que j'imagine est extrêmement douloureux, est-ce que c'est quelque chose de guérisseur de pouvoir tourner la page et délivrer ce projet-là et d'avoir les réactions du public?
Oui, je pense que oui. C'est un travail acharné, premièrement, parce que on ne peut pas, comme institution journalistique, venir et dire il y a 200 ans d'histoire noire dans les prairies sans prouver qu'il y a 200 ans d'histoire dans les prairies. Donc, on a parlé à des historiens, on a parlé à plus d'une centaine de personnes dans le cadre de ce projet-là. On a parlé à Statistique Canada, on a parlé à des politologues, on a parlé à des sociologues, on a parlé à des historiens, des artistes, des bâtisseurs des communautés. On a parlé à tout type de personnes. Et en effet, c'était vraiment guérisseur de pouvoir raconter la complexité de l'expérience noire dans les prairies. Mais en même temps, ça nous a aussi ouvert les perspectives sur ce que peut être notre pays quand on peut vraiment s'appuyer sur des faits historiques pour avoir une conversation. Vous savez, une chose qui peut sembler banale, mais qui est très importante, c'est que, comme tu disais, Aditya, quand on est une personne racisée, qu'on grandit dans un espace où on ne se voit pas représenté, c'est extrêmement douloureux. Ça peut avoir des conséquences très, très importantes sur notre conception de soi, notre conception de notre identité, notre conception de notre place dans notre environnement. Et c'est des conséquences qui peuvent être très, très sérieuses, notamment sur la santé mentale des personnes, sur la cohésion sociale, etc., etc. Et donc, quand les personnes peuvent se voir représentées à la télé, à la radio, dans l'espace digital, dans les cours d'histoire, dans les conversations, ça change complètement la narrative, ça change la perspective, mais ça permet aussi aux gens de se voir représentés. Alors, on entend souvent que la représentation, c'est important. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que on est des êtres humains et que nous tous, on a la capacité et la possibilité de communiquer entre nous pour avoir une cohésion sociale. Et c'est pour ça que Black on the Prairies, à mon avis, est un projet qui va contribuer pendant très longtemps à notre compréhension des prairies canadiennes.
Absolument. J'invite à tous nos auditeurs d'aller checker ça. C'est disponible en français également, comme on
Et
m'a advisé.
dans la bio de l'épisode aussi, on va mettre le projet, le lien. Oui.
Absolument. J'aimerais également juste ajouter que la représentativité, c'est comme quand j'étais tout petit, on disait souvent que ah, tu te vois dans les émissions comme Les Simpsons avec comme le seul personnage stéréotypé indien. Mais c'est comme la représentativité, ça doit être une représentation positive également. Ça doit être quelque chose comme on ne veut pas toujours voir que des gens immigrants, c'est comme, je sais pas, on voit souvent que les étudiants internationaux de l'Inde se sont fait tirer dessus ou des choses comme ça. Ce n'est pas une représentation positive. On veut se voir en train de réussir, en train de comme, avoir de la joie dans nos communautés. Puis c'est ça qui est important également. Puis c'est comme de voir une personne racisée qui est en train de réussir dans sa profession, dans son domaine de travail. C'est ce type de représentation qu'on veut. Puis toi, Omera, tu nous donnes ça. Puis c'est tellement comme apprécié.
Merci beaucoup.
On va passer à nos questions rapid fire. C'est une nouvelle édition qu'on a ajoutée à notre saison 2 des Francos oubliés. Essentiellement, on va te poser une question, puis c'est à toi de répondre à cette question dans 5 mots ou
Okay.
moins. Puis on a 2-ish, 3-ish questions de prévu, mais
Ah,
je vois.
ça dépend à chaque fois.
Ça dépend de qu'est-ce que tu dis, puis si ça nous fait poser d'autres questions. Mais je vais laisser Janie poser la première question, puis on me reviendra après.
OK. Ben, tous les deux, Maïra, on vient de Saskatoon. On vient de Saskatchewan.
Oui.
Fait que je vais te demander, c'est quoi tes cinq places préférées à Saskatoon? Parce que j'ai déménagé à Ottawa, puis il y a du monde qui me demande si jamais je vais à Saskatoon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée quoi leur dire. Parce que, tu sais, c'est difficile quand tu vis à une place puis t'es pas touriste. Alors, pour toi, c'est quoi tes cinq places préférées de la ville?
Oh my God, OK. OK. Le musée Rami est très important. Faut aller checker des artistes super importants. Je dirais la rivière Saskatchewan. Passer vraiment du temps avec l'espace, avec la rivière. Alors, il y a des cafés également. Il y a McNally Robinson, la librairie McNally Robinson, que je dirais d'aller.
Oui.
Il y a de très bons restos à Saskatoon. Je ne veux pas forcément nommer des restos parce que ça peut aussi être un peu complexe là-dessus, mais il y a de super bons restos au centre-ville de Saskatoon qu'il faut absolument aller checker. Et également, allez-y à Art Placement, la galerie Art Placement à Saskatchewan.
Okay.
Cool.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu McNally Robinson.
Oui.
Moi, on avait ça à Winnipeg, mais on n'a pas ça ici à Edmonton, malheureusement. Mais c'est comme la dernière fois que j'étais là, c'était quand j'avais 7 ans. Ça m'y ramène. En parlant de Winnipeg, je veux te poser une prochaine question. Si tu avais trois villes préférées dans les prairies, puis tu dois les ranker d'une à trois, désolé, je vais te forcer à faire ça.
Wow, OK. Premièrement, j'espère que Regina est mieux de pas être dans le top 3. I'm sorry, mais juste de mieux pas être là.
Mais c'est ça, c'est les top 3, tu dois ranker 1 à 3. Go.
Oh my God. OK, all right. OK, Saskatoon représente première ville, of course.
Woo.
Puis deuxième ville, Winnipeg, parce que j'ai eu des pierogies très très bons à Winnipeg. Et je vais pas choisir une troisième ville, je vais juste choisir un troisième petit village,
C'est bien.
Métis, en Saskatchewan qui s'appelle Duck Lake.
Ah oui.
C'est un super petit village de comme 900 personnes qui est à côté d'une Première Nation. Mais c'est vraiment super intéressant, Duck Lake, parce qu'il y a des francophones là-bas, il y a des métis là-bas, il y a des anglophones, il y a des personnes noires. C'est extraordinaire comme petit écosystème. Allez-y
Okay.
découvrir Duck Lake.
Je suis un peu découragé que Edmonton n'a pas fait la liste,
Edmonton! OK, est-ce que je peux avoir un quatrième choix?
Ben, vas-y, fort. Ah, oh, parfait. Ben, ensuite, on avait une autre question. Tes top five things que tu aimes à propos de la vie sur les prairies. Vu que ça te touche tellement d'être des prairies, qu'est-ce que c'est les cinq top choses?
Wow, j'adore cette question-là. C'est tellement une super bonne question. Ça me rend vraiment émotionnelle parce que ça fait quelques mois que je vis à Toronto, donc il y a beaucoup de choses qui me manquent des prairies. La
Ouais, moi
première
aussi.
chose, c'est, oui, n'est-ce pas, Jenny? La première chose, c'est vraiment les couchers de soleil. C'est extraordinaire, nos couchers de soleil dans les prairies. Je pense que je disais un peu plus tôt que j'ai un rapport charnier avec la géographie des prairies. Ça me manque beaucoup. Quelque chose de très important. Deuxième chose importante, les relations que j'ai avec les communautés autochtones, les communautés noires, les communautés francophones dans les prairies. C'est super important pour moi de garder ces liens-là, de développer ces liens-là. Troisième chose, beaucoup de belles petites bibliothèques, librairies, petits cafés, des musées, vraiment une vie culturelle très, très fructueuse et riche dans les prairies, je dirais, tant en français qu'en anglais, et évidemment aussi dans la culture autochtone. Et je dirais quatrième chose, wow, ok, j'ai deux autres choix. Qu'est-ce que je dirais d'autre? La nourriture, très, très importante. Et également, la cinquième chose que je dirais, toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des personnes de nos communautés sur nos communautés, c'est des conversations que je chéris énormément et qui font partie de moi. Donc, ce sont mes cinq réponses.
Ah, mais je comprends tous les cinq, puis j'ai les échos, parce que moi aussi, je vis en Ontario maintenant, puis, tu sais, avant de déménager, j'étais comme, oui, je vais pas manquer ça, je vais pas manquer ma vie, tu sais, je suis prête à déménager, puis j'arrive ici 2 semaines plus tard, je suis en train de brailler parce qu'on m'a envoyé une photo d'un coucher de soleil, fait que je comprends le sentiment de manquer, tu sais, une partie de la maison de même.
Ben oui, c'est ça, mais en même temps, j'espère que tu retournes aussi, parce que moi, j'ai tout à fait l'intention de retourner très, très bientôt parce que ça fait partie de moi, puis je suis une femme des prairies.
To be determined,
OK.
Ben, merci beaucoup, Omaira. On apprécie énormément ta présence ici, tes discussions, mais aussi ta passion pour le storytelling dans nos communautés, au-delà d'ici ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, merci pour tout. On aimerait te revoir bientôt, j'espère, sur les Franco-Zoubiers pour te jaser de d'autres belles projets que tu travailles, de beaux projets. Ben oui, merci, merci beaucoup.
Merci énormément à vous deux. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Et c'est vraiment un honneur d'être en conversation avec vous. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, je pense que je l'ai dit plus tôt, le travail que vous faites est tellement, tellement important. Et on sent que vous avez un amour pour nos communautés, pour la langue française, puis pour nos réalités. Et c'est tellement, tellement important. Alors, moi, je suis très émotive ce dimanche après-midi en vous jasant. Alors, merci énormément, vraiment. Merci du fond du cœur.
Merci à toi. Merci beaucoup.
OK, bonne journée.
Bonne journée. Puis à nos auditeurs, merci à vous d'être ici puis écouter ce fantastique épisode avec Omaira Issa. On espère que vous allez laisser des commentaires, nous écrire ou quoi que ce soit. Et bonne journée.
Bonne journée tout le monde.